Livre 2. La faute de l'abbé Mouret, chapitre 6. Un matin, enfin, elle put le soutenir jusqu'au bas de l'escalier, foulant l'herbe du pied devant lui, lui frayant un chemin au milieu des églantiers qui barraient les dernières marches de leurs bras souples. Puis, lentement, ils s'en allèrent dans le bois des roses. C'était un bois avec des futaies de hauts rosiers à tiges qui élargissaient des bouquets de feuillages grands comme des arbres, avec des rosiers en buissons énormes, pareils à des taillis impénétrables de jeunes chênes. Jadis, il y avait eu là la plus admirable collection de plants qu'on pût voir. Mais depuis l'abandon du parterre, tout avait poussé à l'aventure. La forêt vierge s'était bâtie, la forêt de roses envahissant les sentiers, se noyant dans les rejets sauvages, mêlant les variétés à ce point que des roses de toutes les odeurs et de tous les éclats semblaient s'épanouir sur les mêmes pieds. Des rosiers qui rampaient faisaient à terre des tapis de mousse, tandis que des rosiers grimpants s'attachaient à d'autres rosiers, ainsi que des lierres dévorants montaient en fusée de verdure, laissant retomber au moindre souffle la pluie de leurs fleurs effeuillées. Et des allées naturelles s'étaient tracées au milieu du bois. D'étroits sentiers, de larges avenues, d'adorables chemins couverts où l'on marchait à l'ombre dans le parfum. On arrivait ainsi à des carrefours, à des clairières, sous des berceaux ou de petites roses rouges, entre des murs tapissés de petites roses jaunes. Certains coins de soleil luisaient comme des étoffes de soie verte brochées de taches voyantes. Certains coins d'ombre avaient des recueillements d'alcôves, une senteur d'amour, une tiédeur de bouquets pâmés au sein d'une femme. Les rosiers avaient des voix chuchotantes. Les rosiers étaient pleins de nids qui chantaient. « Prenons garde de nous perdre, » dit Albine en s'engageant dans le bois. « Je me suis perdue une fois. Le soleil était couché quand j'ai pu me débarrasser des rosiers qui me retenaient par les jupes à chaque pas. » Mais il marchait à peine depuis quelques minutes lorsque Serge, brisé de fatigue, voulut s'asseoir. Il se coucha. Il s'endormit d'un sommeil profond. Albine, assise à côté de lui, resta songeuse. C'était au débouché d'un sentier au bord d'une clairière. Le sentier s'enfonçait très loin, rayé de coups de soleil, s'ouvrant à l'autre bout sur le ciel par une étroite ouverture ronde et bleue. D'autres petits chemins creusaient des impasses de verdure. La clairière était faite de grands rosiers étagés, montant avec une débauche de branches, un fouillis de lianes épineuses telles que des nappes épaisses de feuillages s'accrochaient en l'air, restaient suspendus, tendaient d'un arbuste à l'autre les pans d'une tente volante. On ne voyait entre ces lambeaux découpés comme de la fine guipure que des trous de jour imperceptibles, un crible d'azur laissant passer la lumière en une impalpable poussière de soleil. Et de la voûte, ainsi que des girandoles, pendaient des échappées de branches, de grosses touffes tenues par le fil vert d'une tige, des brassées de fleurs descendant jusqu'à terre, le long de quelques déchirures du plafond qui traînaient, pareil à un coin de rideau arraché. Cependant, Albine regardait Serge dormir. Elle ne l'avait point encore vu, dans un tel accablement des membres, les mains ouvertes sur le gazon, la face morte. Il était ainsi mort pour elle. Elle pensait qu'elle pouvait le baiser au visage sans qu'il sentît même son baiser. Et triste, distraite, elle occupait ses mains oisives à effeuiller les roses qu'elle trouvait à sa portée. Au-dessus de sa tête, une gerbe énorme retombait effleurant ses cheveux, mettant des roses à son chignon, à ses oreilles, à sa nuque, lui jetant aux épaules un manteau de roses. Plus haut, sous ses doigts, les roses pleuvaient, de larges pétales tendres ayant la rondeur exquise, la pureté à peine rougissante d'un sein de vierge. Les roses, comme une tombée de neige vivante, cachaient déjà ses pieds repliés dans l'herbe. Les roses montaient à ses genoux, couvraient sa jupe, la noyaient jusqu'à la taille, tandis que trois feuilles de roses égarées, envolées sur son corsage à la naissance de sa gorge, semblait mettre là trois bouts de sa nudité adorable. Oh, le paresseux, murmura-t-elle, prise d'ennui, ramassant deux poignées de roses et les jetant sur la face de Serge sans le réveiller. Il resta appesanti avec des roses qui lui bouchaient les yeux et la bouche. Cela fit rire Albine. Elle se pencha. Elle lui baisa de tout son cœur les deux yeux. Elle lui baisa la bouche, soufflant ses baisers pour faire envoler les roses. Mais les roses lui restaient aux lèvres et elle eut un rire plus sonore, tout amusé par cette caresse dans les fleurs. Serge s'était soulevé lentement. Il la regardait, frappé d'étonnement, comme effrayé de la trouver là. Il lui demanda « Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu à mon côté ?» Elle souriait toujours, ravie de le voir ainsi s'éveiller. Alors il parut se souvenir. Il reprit avec un geste de confiance heureuse. « Je sais, tu es mon amour. Tu viens de ma chair. Tu attends que je te prenne entre mes bras pour que nous ne nous fassions plus qu'un. Je rêvais de toi. Tu étais dans ma poitrine et je te donnais mon sang, mes muscles, mes os. Je ne souffrais pas. Tu me prenais la moitié de mon cœur si doucement que c'était en moi une volupté de me partager ainsi. Je cherchais ce que j'avais de meilleur, ce que j'avais de plus beau pour te l'abandonner. Tu aurais tout emporté que je t'aurais dit merci. Et je me suis réveillée quand tu es sortie de moi. Tu es sortie par mes yeux et par ma bouche, je l'ai bien senti. Tu étais toute tiède, toute parfumée, si caressante que c'est le frisson même de ton corps qui m'a mis sur mon séant. Albine, en extase, l'écoutait parler. Enfin, il la voyait. Enfin, il achevait de naître, il guérissait. Elle le supplia de continuer les mains tendues. « Comment ai-je fait pour vivre sans toi ? » murmura-t-il. « Mais je ne vivais pas. J'étais pareille à une bête ensommeillée. Et te voilà, moi, maintenant. Et tu n'es autre que moi-même. Écoute, il faut ne jamais me quitter, car tu es mon souffle, tu emporterais ma vie. Nous resterons en nous. Tu seras dans ma chair comme je serai dans la tienne. Si je t'abandonnais un jour, que je sois maudit, que mon corps se sèche ainsi qu'une herbe inutile et mauvaise. » Il lui prit les mains en répétant d'une voix frémissante d'admiration « Comme tu es belle !» Albine, dans la poussière de soleil qui tombait, avait une chair de lait à peine dorée d'un reflet de jour. La pluie de roses autour d'elle, sur elle, la noyait dans du rose. Ses cheveux blonds, que son peigne attachait mal, la coiffaient d'un astre à son coucher, lui couvrant la nuque du désordre de ses dernières mèches flambantes. Elle portait encore une rose blanche qui la laissait nue, tant elle était vivante sur elle, tant elle découvrait ses bras, sa gorge, ses genoux. Elle montrait sa peau innocente, épanouie, sans honte, ainsi qu'une fleur musquée d'une odeur propre. Elle s'allongeait, point trop grande, souple comme un serpent, avec des rondeurs molles, des élargissements de lignes voluptueux, toute une grâce de corps naissant, encore baigné d'enfance, déjà renflé de puberté. Sa face longue au front étroit, à la bouche un peu forte, riait de toute la vie tendre de ses yeux bleus. Et elle était sérieuse pourtant, les joues simples, le menton gras, aussi naturellement belle que les arbres sont beaux. « Et que je t'aime, » dit Serge en l'attirant à lui. Ils restèrent l'un à l'autre dans leurs bras. Ils ne se baisaient point, ils s'étaient pris par la taille, mettant la joue contre la joue, unis, muets, charmés de n'être plus qu'un. Autour d'eux, les rosiers fleurissaient. C'était une floraison folle, amoureuse, pleine de rires rouges, de rires roses, de rires blancs. Les fleurs vivantes s'ouvraient comme des nudités, comme des corsages laissant voir les trésors des poitrines. Il y avait là des roses jaunes effeuillant des peaux dorées de filles barbares, des roses paille, des roses citron, des roses couleur de soleil, toutes les nuances des nues cambrées par les cieux ardents. Puis les chairs s'attendrissaient, les roses tées, prenez des moiteurs adorables, étalez des pudeurs cachées, des coins de corps qu'on ne montrait pas, d'une finesse de soie, légèrement bleuie par le réseau des veines. La vie rieuse des roses s'épanouissait ensuite. Le blanc rose, à peine teinté d'une pointe de lac, neige d'un pied de vierge qui tâte l'eau d'une source. Le rose pâle, plus discret que la blancheur chaude d'un genou entrevu, que la lueur dont un jeune bras éclaire une large manche. Le rose franc, du sang sous le satin, des épaules nues, des hanches nues, tout le nu de la femme caressée de lumière. Le rose vif, fleur en bouton de la gorge, fleur à demi ouverte des lèvres, soufflant le parfum d'une haleine tiède. Et les rosiers grimpants, les grands rosiers à plus de fleurs blanches, habillaient toutes ces roses, toutes ces chairs de la dentelle de leurs grappes, de l'innocence de leur mousseline légère. Tandis que çà et là, des roses lits de vin presque noires, saignantes, trouaient cette pureté d'épousée d'une blessure de passion. Noces du bois odorant, menant les virginités de mai aux fécondités de juillet et d'août. Premier baiser ignorant, cueilli comme un bouquet au matin du mariage. Jusque dans l'herbe, des roses mousseuses avec leurs robes montantes de laine verte attendaient l'amour. Le long du sentier rayé de coups de soleil, des fleurs rôdaient, des visages s'avançaient, appelant les vents légers au passage. Sous la tente déployée de la clairière, tous les sourires luisaient. Pas un épanouissement ne se ressemblait. Les roses avaient leur façon d'aimer. Les unes ne consentaient qu'à entrebâiller leurs boutons très timides, le cœur rougissant, pendant que d'autres, le corset délacé, pantelant, grandes ouvertes, semblaient chiffonnées, folles de leur corps au point d'en mourir. Il y en avait de petites, alertes, gaies, s'en allant à la file, la cocarde bonnet. D'énormes crevant d'appât avec des rondeurs de sultane engraissées. Des frontées, l'air fille d'un débraillé coquet étalant des pétales blanchis de poudre de riz. D'honnêtes, décolletées en bourgeoises correctes, d'aristocrates, d'une élégance souple, d'une originalité permise, inventant des déshabillés. Les roses épanouies en coupe offraient leur parfum comme dans un cristal précieux. Les roses renversées en forme d'urne le laissaient couler goutte à goutte. Les roses rondes, pareilles à des choux, l'exhalaient d'une haleine régulière de fleurs endormies. Les roses en boutons serraient leurs feuilles, ne livraient encore que le soupir vague de leur virginité. « je t'aime », répétait Serge à voix basse. Et Albine était une grande rose, une des roses pâles ouvertes du matin. Elle avait les pieds blancs, les genoux et les bras roses, la nuque blonde, la gorge adorablement veinée, pâle, d'une moiteur exquise. Elle sentait bon. Elle tendait des lèvres qui offraient dans une coupe de corail leur parfum faible encore. Et Serge la respirait, la mettait à sa poitrine. « dit-elle en riant, « tu ne me fais pas mal, tu peux me prendre tout entière. » Serge resta ravi de son rire, pareil à la phrase cadencée d'un oiseau. « C'est toi qui as ce chant, dit-il. Jamais je n'en ai entendu d'aussi doux. Tu es ma joie. » Et elle riait, plus sonore, avec des gammes perlées de petites notes de flûte très aiguës qui se noyaient dans un ralentissement de son grave. C'était un rire sans fin, un roucoulement de gorge, une musique sonnante, triomphante, célébrant la volupté du réveil. Tout riait dans ce rire de femme naissant à la beauté et à l'amour, les roses, le bois odorant, le paradou entier. Jusque-là, il avait manqué un charme au grand jardin, une voix de grâce qui fut la gaieté vivante des arbres, des eaux, du soleil. Maintenant, le grand jardin était doué de ce charme du rire. « Quel âge as-tu ? » demanda Albine après avoir éteint son chant sur une note filée et mourante. « Bientôt 26 ans, » répondit Serge. Elle s'étonna. Comment ? Il avait 26 ans. Lui-même était tout surpris d'avoir répondu cela si aisément. Il lui semblait qu'il n'avait pas un jour, pas une heure. « Et toi, quel âge as-tu » demanda-t-il à son tour. « Moi, j'ai 16 ans. » Et elle repartit, toute vibrante, répétant son âge, chantant son âge. Elle riait d'avoir 16 ans, d'un rire très fin qui coulait comme un filet d'eau dans un rythme tremblé de la voix. Serge la regardait de tout près, émerveillé de cette vie du rire dont la face de l'enfant resplendissait. Il la reconnaissait à peine, les joues trouées de fossettes, les lèvres arquées, montrant le rose humide de la bouche, les yeux pareils à des bouts de ciel bleu s'allumant d'un lever d'astre. Quand elle se renversait, elle le chauffait de son menton gonflé de rire qu'elle lui appuyait sur l'épaule. Il tendit la main, il chercha derrière sa nuque d'un geste machinal. « Que veux-tu ? » demanda-t-elle. Et se souvenant, elle cria « Tu veux mon peigne ? Tu veux mon peigne ?» Alors elle lui donna le peigne. Elle laissa tomber les nattes lourdes de son chignon. Ce fut comme une étoffe d'or dépliée. Ses cheveux la vêtirent jusqu'aux reins. Des mèches qui lui coulèrent sur la poitrine achevèrent de l'habiller royalement. Serge, à ce flambement brusque, avait poussé un léger cri. Il baisait chaque mèche. Il se brûlait les lèvres à ce rayonnement de soleil couchant. Mais Albine, à présent, se soulageait de son long silence. Elle causait, questionnait, ne s'arrêtait plus. « Oh, que tu m'as fait souffrir ! Je n'étais plus rien pour toi. Je passais mes journées inutiles, impuissantes, me désespérant comme une propre à rien. Et pourtant, les premiers jours, je t'avais soulagée. Tu me voyais, tu me parlais. Tu ne te rappelles pas lorsque tu étais couchée et que tu t'endormais contre mon épaule en murmurant que je te faisais du bien ?»« Non, » dit Serge. « Non, je ne me rappelle pas. Je ne t'avais jamais vue. Je viens de te voir pour la première fois, belle, rayonnante, inoubliable. » Elle tapa dans ses mains prises d'impatience, se récriant « Et mon peigne, tu te souviens bien que je te donnais mon peigne pour avoir la paix lorsque tu étais redevenu enfant. Tout à l'heure, tu le cherchais encore. » « Non, je ne me souviens pas. Tes cheveux sont une soie fine. Jamais je n'avais baisé tes cheveux. » Elle se fâcha, précisa certains détails, lui conta sa convalescence dans la chambre au plafond bleu. Mais lui, riant toujours, finit par lui mettre la main sur les lèvres en disant avec une lassitude inquiète « Non, tais-toi, je ne sais plus, je ne veux plus savoir. Je viens de m'éveiller et je t'ai trouvée là, pleine de roses, cela suffit. » Et il la reprit dans ses bras longuement, rêvant tout haut, murmurant « Peut-être ai-je déjà vécu. Cela doit être bien loin. Je t'aimais dans un songe douloureux. Tu avais tes yeux bleus, ta face un peu longue, ton air enfant, mais tu cachais tes cheveux soigneusement sous un linge. Et moi, je n'osais écarter ce linge parce que tes cheveux étaient redoutables et qu'ils m'auraient fait mourir. Aujourd'hui, tes cheveux sont la douceur même de ta personne. Ce sont eux qui gardent ton parfum, qui me livrent ta beauté assouplie, tout entière entre mes doigts. Quand je les baise, quand j'enfonce ainsi mon visage, je bois ta vie. » Il roulait les longues boucles dans ses mains, les pressant sur ses lèvres, comme pour en faire sortir tout le sang d'Albine. Au bout d'un silence, il continua. « C'est étrange. Avant d'être né, on rêve de naître. J'étais enterré quelque part. J'avais froid. J'entendais s'agiter au-dessus de moi la vie du dehors. Mais je me bouchais les oreilles, désespéré, habitué à mon trou de ténèbres, y goûtant des joies terribles, ne cherchant même plus à me dégager du tas de terre qui pesait sur ma poitrine. Où étais-je donc ? Qui donc m'a mis enfin à la lumière ? Il faisait des efforts de mémoire, tandis qu'Albine, anxieuse, redoutait maintenant qu'il ne se souvînt. Elle prit en souriant une poignée de ses cheveux, la noua au cou du jeune homme qu'elle attacha à elle. Ce jeu le fit sortir de sa rêverie. « Tu as raison, » dit-il. « Je suis à toi. Qu'importe le reste. C'est toi, n'est-ce pas, qui m'as tiré de la terre ? Je devais être sous ce jardin. Ce que j'entendais, c'était tes pas roulant les petits cailloux du sentier. Tu me cherchais. Tu as porté sur ma tête des chants d'oiseaux, des odeurs d'œillets, des chaleurs de soleil. Et je me doutais bien que tu finirais par me trouver. Je t'attendais, vois-tu, depuis longtemps. Mais je n'espérais pas que tu te donnerais à moi sans ton voile, avec tes cheveux dénoués, tes cheveux redoutables qui sont devenus si doux. » Il la prit sur lui, la renversa sur ses genoux en mettant son visage à côté du sien. « Ne parlons plus. Nous sommes seuls à jamais. Nous nous aimons. » Ils demeurèrent innocemment aux bras l'un de l'autre. Longtemps encore ils s'oublièrent là. Le soleil montait, une poussière de jour plus chaude tombait des hautes branches. Les roses jaunes, les roses blanches, les roses rouges n'étaient plus qu'un rayonnement de leur joie. Une de leurs façons de se sourire. Ils avaient certainement fait éclore des boutons autour d'eux. Les roses les couronnaient, leur jetaient des guirlandes d'orin. Et le parfum des roses devenait si pénétrant, si fort d'une tendresse amoureuse, qu'il semblait être le parfum même de leur haleine. Puis, ce fit Serge qui recoiffa Albine. Il prit ses cheveux à poignée, avec une maladresse charmante, et planta le peigne de travers dans l'énorme chignon tassé sur la tête. Or, il arriva qu'elle était adorablement coiffée. Il se leva ensuite, lui tendit les mains, la soutint à la taille pour qu'elle se mît debout. Tous deux souriaient toujours sans parler. Doucement, ils s'en allèrent par le sentier.